Le simple fait de prendre une douche, j'étais obligée de me reposer pendant 2 heures, tellement que j'étais essoufflée et épuisée. C'est-à-dire que je ne retrouve plus mon état donc antérieur, d'autant plus que je souffre donc de troubles de la mémoire, de troubles de la concentration. C'est vraiment frustrant.
Comme Dominique, il serait plus d'un million de patients en France souffrant de ce qu'ils appellent le Covid long, avec des symptômes qui perdurent ou réapparaissent plusieurs mois après l'infection. Les chiffres ne sont pas tranchés précisément parce que cette maladie chronique prend des formes multiples. Les premiers patients, désorientés, s'adressaient à des médecins démunis, voire incrédules. La maladie étant nouvelle, ses séquelles étaient naturellement imprévisibles. Et jusqu'ici, les causes du Covid long restent mystérieuses.
Il reste beaucoup de choses à décrire. Quels sont les facteurs de risque? Quels sont les sujets qui vont faire ou non le Covid long? Mais l'urgence, c'est de trouver la cause. Parce que tant qu'on n'aura pas trouvé la cause, on ne pourra pas donner le traitement adapté.
Le phénomène étant massif, la Haute Autorité de Santé a publié un premier avis, le 12 février. Geste interprété comme une reconnaissance par les malades. Jusque-là, certains se heurtaient à l'incompréhension des médecins, mais aussi de leur environnement familial, social ou professionnel.
Un jour, j'ai dû vraiment m'arrêter parce que j'allais vraiment pas bien. Et quand je suis revenue, mon patron avait tout programmé pour une rupture de contrat alors qu'il m'avait rien parlé avant, rien. Tu signes et tu te tais.
Si le Covid long est bien reconnu désormais comme une maladie, le chantier n'est pas terminé. Il reste aux patients, réunis en association, à obtenir le statut d'affection de longue durée. Sans lui, difficile par exemple de se faire rembourser l'intégralité des frais engagés. Et le traitement, souvent pluridisciplinaire, peut faire appel à de nombreux spécialistes. À l'Hôtel Dieu, à Paris, l'infectiologue Dominique Salmon-Céron a ouvert une consultation dédiée à la maladie. C'est là que commence ce reportage de Marie Roussel.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Il faut qu'on fasse un examen de la tension.
D'accord.
Et un petit exercice physique pour voir si vous avez du mal à respirer après.
Okay.
C'est pas non plus.
Non, je me dis bien.
C'est la première fois qu'on se voit ?
Oui, c'est la première fois qu'on se voit.
D'accord. Quel âge avez-vous ?
29 ans.
Vous venez pour une symptomatologie post-Covid ?
Tout à fait.
Pour le Covid initial, il est survenu quand ?
Alors, fin mars 2020, assez brutalement, c'est-à-dire que j'ai eu des courbatures assez rapidement. Quelques heures après, j'ai eu les difficultés respiratoires. J'ai testé positif dès le lendemain. Donc, effectivement, ça a duré 4 semaines, ce Covid. 4 semaines où j'ai été alitée, étant donné les difficultés respiratoires, c'était très intense. J'arrivais pas du tout à marcher. Mais c'est vrai que du coup, les courbatures sont vite parties. Enfin, en 3 jours, c'était parti. J'ai eu de la fièvre 2 nuits seulement. Par contre, j'ai perdu le goût et l'odorat. Il y a tellement eu de choses. J'ai eu des plaques cutanées, des acouphènes, beaucoup de nausées aussi. Au bout de 4 semaines, on s'est amélioré où j'ai pu sortir.
Et vous avez pu reprendre votre travail ?
J'ai pu reprendre au bout de 5 semaines.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors ensuite, rien de particulier. Jusque juillet, une petite dyspnée d'effort quand même.
Qui persistait en fait.
Oui, qui persistait quand je devais prendre le métro pour les escaliers, des choses comme ça. Du coup, j'ai fait un scanner thoracique en juillet qui n'a rien donné. Et puis finalement, ça s'est dissipé un petit peu au fur et à mesure du temps pendant l'été. Et en novembre, très brutalement, j'ai eu de nouveau une perte de goût, une grosse fatigue. Donc du coup, un peu stressée, mais les tests étaient tous négatifs. Et 4 jours après, grosse oppression thoracique, difficulté respire, tout d'un coup quoi. Et du coup, c'est enchaîné depuis décembre, tachycardie. Je pouvais plus faire grand chose à la maison. Palpitations aussi à côté. J'ai eu beaucoup d'acouphènes aussi. Grosse fatigue, enfin, j'ose même plus le dire parce que c'est logique pour moi. Maux de tête et j'ai eu beaucoup de frissons à ce moment-là.
Sans fièvre ?
Oui, non, sans fièvre, il n'y avait pas de fièvre.
Oui.
Il y a vraiment des symptômes par contre qui persistent énormément. C'est la fatigue, les douleurs au quotidien qui sont presque invivables.
Elles sont où ces douleurs?
Elles sont au niveau dorsal. Désolée, c'est un peu et au niveau émotion. Toujours localisé près D'accord. des omoplates.
Vous avez l'impression que c'est interne ou c'est costal?
Non, c'est interne. C'est vraiment interne, ouais. Donc je fais de la kiné depuis décembre. Aujourd'hui, j'arrive à passer l'aspirateur. c'est un combat.
Donc là, actuellement, ce qui persiste, c'est la fatigue.
La fatigue
importante, ces douleurs dorsales.
Ces douleurs dorsales. J'ai énormément de nausées. J'ai des fourmis dans les mains. Voilà.
Du point de vue neurologique, il n'y a pas de problème?
Non, il n'y a
pas
rien.
De difficulté de concentration, non. De mémoire?
Je suis très fatiguée, donc forcément ça joue, mais non, j'ai pas eu les...
Vous dormez bien?
Non, j'ai beaucoup de troubles du sommeil.
Okay. Est-ce que vous avez reçu des traitements?
Oui, on avait mis codéliprane, c'était à la demande pour le coup. Ça faisait pas fort effet. Et ensuite, en fin janvier, les douleurs se sont vraiment intensifiées, le rythme n'était pas du tout le même. Et elle m'a donné de la morphine à prendre en cas de crise douloureuse.
Ah bah dis donc, vous devez avoir vraiment mal, alors vous en prenez combien de lactiscaline?
Alors, elle me l'a prescrit fin février, j'ai dû en prendre 4 fois. Parce que je suis dans le milieu, d'accord. Je sais que la morphine, c'est de la morphine, quoi.
Et c'est pour les douleurs dorsales?
Alors oui, c'est dorsale, mais quand c'est comme ça, je ne peux plus rien faire, même être allongée, c'est compliqué. Mmh.
Bon, ce que vous décrivez, c'est vraiment très typique de Covid long. Et donc, le traitement, pour l'instant, il est essentiellement symptomatique. Bon, je vais vous examiner un peu. Donc, depuis mai 2020, nous avons organisé une consultation hebdomadaire qui s'est ensuite enrichie à au moins 2 consultations par semaine. Et sans interruption, je crois qu'on n'a pas eu une semaine d'arrêt depuis mai dernier. Donc, on arrive maintenant à plus de 300 patients. Suivi.
À quel moment on parle aujourd'hui de Covid long?
Mais la définition n'est pas encore consensuelle, même pour l'OMS, mais en France, on a choisi de dire que le Covid long était tous les symptômes qui persistaient ou qui revenaient plus d'un mois après un épisode de Covid symptomatique. Alors, parmi ces sujets, la plupart ont eu une documentation, soit une PCR, soit une sérologie, ou soit des signes évidents comme une anosmie, et certains n'ont pas eu de Covid documenté, n'ont pas pu faire de PCR, et ils n'ont pas développé d'anticorps. Ça ne veut pas dire que c'est dans leur tête, ça veut peut-être dire que certains sujets n'arrivent pas à développer d'anticorps. Il reste beaucoup de choses à décrire en termes d'évolution des symptômes, à un an, décrire quels sont les facteurs de risque, quels sont les sujets qui vont faire ou non le Covid long. Mais l'urgence, c'est de trouver la cause. Parce que tant qu'on n'aura pas trouvé la cause, on ne pourra pas donner le traitement adapté. Et en termes de cause, il existe plusieurs hypothèses. Soit des hypothèses organiques, soit des hypothèses psychologiques. Dans les hypothèses organiques, une des hypothèses, ça pourrait être que le virus persiste. Pas forcément au niveau rhinopharyngé. Il persiste peut-être dans des sites plus difficile à déceler. Il est peut-être entré dans des cellules, peut-être des cellules de l'endothélium, peut-être des cellules situées au niveau du cerveau, juste derrière le bulbe olfactif, et là, continuer à irriter l'organisme et être responsable de ces symptômes. Ça pourrait être aussi des désordres immunitaires. Peut-être que le virus a induit des désordres immunitaires ou inflammatoires. À nouveau, pas une inflammation qui se voit. C'est pas des gens qui ont de la fièvre, qui ont des marqueurs inflammatoires énormes, mais une inflammation localisée dans certains organes, peut-être dans des petits vaisseaux, des petits capillaires, qui induisent ces symptômes. Il peut y avoir aussi des facteurs génétiques ou hormonaux. On est frappé de voir que les Covid longs touchent surtout les femmes et beaucoup de personnes qui ont une atopie ou une allergie. Donc peut-être y a-t-il des cofacteurs qui jouent. Vous voyez, donc tout ça, ce sont les causes organiques. Hein. Et à côté, il y a peut-être aussi des causes psychologiques. Peut-être que ces Covid longs touchent des personnes qui ont plus un terrain psychologique fragile. Ce n'est pas mon hypothèse, mais certains ont cette hypothèse. Et donc ça, c'est quelque chose à explorer à toutes les étapes du suivi. Et dans notre protocole, on explore de façon systématique le terrain anxieux, dépressif. Mais surtout... ce Covid long entraîne beaucoup de peur et d'interrogations des patients. Ils ont extrêmement peur de ne pas retrouver leur vie normale et que ces symptômes durent longtemps. Donc, ça induit des troubles dépressifs qu'il faut prendre en charge. Donc il y a tout ça, faut démêler tout ça, faut démêler toutes ces causes organiques et toutes ces causes psychologiques. Mais il faut aller plus loin que notre étude observationnelle. Donc on est avec plusieurs chercheurs, notamment de l'Institut Pasteur, en train de monter des protocoles qu'on appelle interventionnels pour étudier leur réponse immune, leur génétique, à différents moments du suivi, voir aussi si le vaccin peut éventuellement changer le cours des choses. Et s'il change le cours des choses, qu'est-ce qu'il induit comme réponse bénéfique, vous voyez ? Voilà, tout ce côté recherche maintenant est vraiment la priorité. Malheureusement, c'est des recherches qui coûtent cher et qui ne sont pas jugées prioritaires par les instances de décision. Parce que c'est vrai, je comprends que les malades prioritaires, ce sont ceux qui ont des formes graves, qui sont oxygénodépendants, qui sont à risque de décéder. Les Covid longs, c'est une maladie plus chronique, mais c'est quand même important parce que c'est un problème de santé publique qui touche des centaines de milliers de personnes. Certains, au bout d'un an, ne peuvent pas reprendre leur travail. Donc le Covid long a un impact important, professionnel, social, familial et aussi financier. Quoi. Donc ça doit être une priorité aussi de la lutte contre la Covid.
Oui, bonjour Dominique, Marie Roussel, la journaliste de France Inter. On a un peu d'avance, on est rue Pierre Brossolette. Est-ce qu'on peut passer du coup ?
Oui, oui, bien sûr.
Et bien, à tout de suite. À tout de suite. Nous sommes à Châtillon, dans les Hauts-de-Seine, invitée chez Dominique Guéry. Cette infirmière de 63 ans bénéficie de la reconnaissance de la maladie professionnelle.
D'abord, on vient s'installer. Vous voulez boire quelque chose ?
On va.
Jus d'orange, un bon jus d'orange.
Jus d'orange.
Oui, c'est parfait.
Merci beaucoup.
Voilà, donc trois énormes classeurs où j'ai les comptes rendus d'hospitalisation. Les examens divers qu'on m'a fait. Alors, je me suis dit, bon, un premier classeur va suffire. Ben non, non, non. Un deuxième grand classeur est arrivé. Et là, donc, c'est le dernier classeur. Je n'ai jamais vu autant de médecins de ma vie. Cardiologue, maintenant, c'est pneumologue, allergologue, dermatologue, psychiatre. Voilà, et les infectiologues, bien entendu, quoi. Je suis infirmière, donc en EHPAD. Et n'ayant pas de masque, ni de lunettes, ni de surblouse, j'ai rapidement été contaminée. Donc j'ai été hospitalisée, très 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 bien suivie. Et mon état s'est aggravé au bout du 11e jour, avec une détresse respiratoire importante. Et donc, j'ai été mise sous oxygène. Ils m'ont gardée donc un mois hospitalisée. Donc, je suis rentrée chez moi en me disant, ben, ça va aller, il n'y a pas de souci. Et là, ont commencé donc les problèmes, c'est-à-dire me rendre compte que le simple fait de prendre une douche, j'étais obligée donc de me reposer pendant 2 heures. Tellement que j'étais essoufflée et épuisée. Marcher, c'était au-delà donc de mes forces. Pour faire le ménage, un truc tout bête, ça me prenait 4 heures avec des coupures pour me reposer. Ensuite, j'ai été hospitalisée une deuxième fois donc au mois de juin de la même année pour problèmes respiratoires donc très importants. J'ai été hospitalisée donc une dizaine de jours où j'ai eu plein d'examens, des biopsies et tout ça pour m'entendre dire que j'avais développé 2 maladies auto-immunes, un syndrome de Gougerot et donc un diagnostic a été posé pour un lupus.
Vous ne reconnaissez plus votre corps ?
Non, non. C'est-à-dire que je ne retrouve plus mon état donc antérieur. Je suis toujours infirmière, mais j'étais hyperactive, prenant des gardes très importantes, travaillant 12 heures. Des fois, on était seul pour 120 résidents, ça posait aucun problème de courir à gauche et à droite. Et là, pour le moment, c'est impossible, d'autant plus que je souffre de troubles de la mémoire, de troubles de la concentration. Des fois, il y a des mots qui ne viennent pas, que je cherche. Ça m'énerve, c'est vraiment frustrant. Et donc, ça pose un problème au niveau de mon travail parce que, il faut rien oublier, il faut être vraiment vigilante à tout. Et là, le fait d'être vigilante quand je parle à quelqu'un, ça représente pour moi un effort très important de concentration. C'est comme si j'étais dans un brouillard, voilà. C'est-à-dire, je suis à chaque fois obligée de chercher dans mon cerveau les phrases, est-ce que je vais réussir à dire la phrase en entier? Est-ce qu'il y avait à y avoir des blancs? Là, par exemple, sur mon PC portable, en revenant, je me suis plus revenue du mot de passe. Voilà, impossible. Donc, j'étais obligée de le reconfigurer en entier. Je n'arrivais plus à me souvenir. Et donc là, je me sers énormément de post-it, je note... Ou alors je téléphone à mes sœurs en disant « Écoute, retiens ça pour moi, c'est important, parce que sinon j'oublie. » Donc c'est vraiment désespérant, quoi. J'étais très très en colère parce que je me suis dit que j'avais été contaminée par absence de masque. Et quand j'ai entendu notre président dire que nous, personnel soignant, on partait à la guerre, je me suis dit oui, mais on n'avait pas les armes. Donc j'étais très, très en colère d'avoir été contaminée de la sorte, quoi.
Vous avez été reconnue maladie professionnelle. Ça s'est passé quand? Est-ce que vous pouvez nous préciser?
J'ai eu la réponse à la sortie de ma première hospitalisation. En avril donc 2020. C'est vrai qu'on est très surveillé par la sécurité sociale, pensant que on fait traîner les choses. Ils sont très très exigeants sur la prise en charge des soignants. Et nous, on a été plusieurs à contacter notre conseil de l'ordre infirmier, en demandant donc leur aide et leur intervention au niveau du gouvernement. Mais à ce jour, je sais que le Conseil de l'Ordre n'a pas pu faire bouger les choses, quoi. Donc on est très peu à être en maladie professionnelle, quoi. Mais là, dernièrement, j'ai vu mon médecin traitant qui, lui, donc envisageait de me mettre en AH, c'est-à-dire une allocation d'adulte handicapé. Mais je ne veux pas rentrer dans ce système-là et donc je m'accroche pour reprendre mon travail.
Interception sur France Inter.
Depuis le 14 septembre dernier, le Covid peut être reconnu comme maladie professionnelle, mais seulement pour le personnel soignant. L'assurance maladie a enregistré 15 000 demandes et a reconnu 600 cas, dont une cinquantaine pour le Covid long. Quant à la reconnaissance en affection de longue durée, elle reste un objectif. Pourtant, de nombreux malades se sont retrouvés dans une situation précaire. Ils sont contraints de consulter différents spécialistes, kinés, psychologues, neurologues ou encore pneumologues, ce qui génère des actes coûteux.
Monsieur le député, vous avez fait bon voyage ?
Oui, bon voyage depuis ce matin, après une nuit courte puisqu'on a siégé toute la nuit d'hier sur la proposition de loi sur la fin de vie et malheureusement qu'on n'a pas pu achever.
L'Assemblée a rejeté en février la proposition de loi du député Régis Juanico qui souhaitait créer un fonds d'indemnisation pour les malades. À Lyon, entre deux trains, il a expliqué à Marie Roussel la raison de ce rejet.
Je pense que la majorité et le gouvernement ont souhaité gagner du temps. Alors pour des raisons aussi financières, parce qu'ils estiment qu'aujourd'hui, il faut être dans une reconnaissance la plus limitée possible des conséquences de la pathologie de la Covid-19. On le voit, hein, avec le décret qui était sorti en septembre dernier sur les maladies professionnelles, qui est extrêmement restrictif, qui s'adresse au personnel de santé, mais qui ne reconnaît ni automatiquement ni systématiquement la reconnaissance en maladie professionnelle, et que nous sommes dans des difficultés aussi financières pour beaucoup de malades qui arrivent en fin de droit parfois, qui ont des difficultés à faire l'avance de frais de leurs frais médicaux. Et souvent, comme le Covid long est aujourd'hui une pathologie qui concerne de multiples symptômes, vous allez voir beaucoup de spécialistes, donc vous devez faire des avances de frais très importantes sur le plan financier. Et aujourd'hui encore, par exemple, le Covid long n'est pas reconnu comme une affection de longue durée.
Mais alors, comment faire pour que ça devienne concret, tout ça? Est-ce que effectivement c'est dans le calendrier bientôt? Est-ce que il y a de nouvelles propositions de loi qui vont être faites?
Et bien, malheureusement, à l'Assemblée nationale, nous n'avons voté qu'une proposition de résolution, hein, c'est-à-dire une déclaration d'intention, une adresse au gouvernement, mais qui n'a pas valeur contraignante, qui dit il faut faire plus de recherches sur la Covid-19, il faut effectivement des parcours de soins coordonnés, il faut également une meilleure reconnaissance en maladie professionnelle, mais derrière,
il n'y a pas de calendrier.
Cette proposition de résolution, elle n'est pas forcément suivie d'effets immédiats. Donc, c'est important que les associations de victimes, les associations de malades, de patients, se mobilisent aux côtés des syndicats de salariés qui ont été très critiques, hein, sur le décret du 14 septembre de reconnaissance en maladie professionnelle, pour maintenir une pression. Le Covid long est aujourd'hui vraiment des symptômes extrêmement handicapants et invalidants. Et ces personnes qui souvent ont été très actives, ils n'ont pas forcément eu les formes graves d'ailleurs de la Covid-19, mais aujourd'hui ils sont extrêmement handicapés dans leur vie quotidienne. Et quand ils souhaitent revenir à leur travail, eh bien on constate effectivement qu'ils ont beaucoup de difficultés à pouvoir reprendre une vie professionnelle normale, classique, parce qu'au bout d'une demi-journée, ils se retrouvent dans un état d'essoufflement et de fatigue terrassant, et parce qu'ils ont beaucoup de mal, notamment, à pouvoir se concentrer et avoir une attention soutenue sur leurs tâches au quotidien. Donc ceux-là, eh bien, souvent, sont mis en arrêt du travail de façon prolongée. Parfois, certains sont victimes de procédures de licenciement pour inaptitude. Et donc, nous commençons à voir aujourd'hui, dans les entreprises, un certain nombre de personnes qui payent les conséquences de leur maladie. Et ça, ça ne serait pas acceptable. On ne peut pas avoir la double peine, c'est-à-dire à la fois les conséquences physiques, en termes de santé aussi mentale, des symptômes persistants d'un Covid long, et en plus en subir les conséquences sur le plan de la vie professionnelle. Donc il faut une protection, et qu'on le reconnaisse à ces malades de la Covid-19, le fait qu'il y ait une réelle souffrance derrière.
On se dirige vers Annemasse, en Haute-Savoie. On a rendez-vous dans un petit village, juste à côté, avec une mère de famille. Elle a 38 ans, elle a été contaminée par la Covid en mars 2020 et souffre toujours de symptômes aujourd'hui. Elle estime que c'est à cause du Covid long si elle a perdu son emploi et veut bien témoigner sous couvert d'anonymat. Anne est donc un prénom d'emprunt.
Bonjour. Donc en plus, vous nous avez apporté un petit dossier pour nous montrer...
Oui, c'est ma rupture de contrat. J'étais secrétaire comptable dans cette entreprise. Je m'occupais de tout ce qui était la comptabilité, les enregistrements courants, déclaration de TVA, toute la base, quoi.
Madame, suite à la signature d'une rupture conventionnelle de votre contrat de travail, nous vous rappelons par la présente qu'en application de la loi, vous bénéficiez d'un droit de rétractation de 15 jours.
Mais bon, je me suis pas rétractée parce que après, l'ambiance avait tellement changé là-bas que personne n'avait le droit de me parler. Et il y avait même des choses que j'avais plus le droit de faire. Donc j'allais au boulot et je répondais pas au téléphone. C'était vraiment devenu pesant.
Quand est-ce que vous avez contracté la Covid-19?
En mars 2020, il y a un an. Moi, j'ai pas été hospitalisée, je fais pas partie de ceux qui ont été en réanimation. Je suis restée à la maison, quoi. J'ai été couchée pendant plus d'une semaine où je pouvais pas me lever, où je J'ai même cru à un moment donné que j'allais partir, tellement que j'y arrivais plus à respirer puis que j'étais vraiment pas bien. Une fois que je suis retournée au boulot, bah, comme je vous disais, j'étais toujours très fatiguée et toujours, j'avais toujours des soucis de concentration. Donc oui, j'ai fait des erreurs pendant que je travaillais parce que j'y voyais pas en fait. Je voyais pas que je faisais des erreurs, mais je voyais que j'étais crevée, que j'avais du mal à me concentrer.
Quel type d'erreur
Des chiffres, parce que je devais rentrer des commandes clients. Et je me trompais dans les chiffres, donc forcément, après, ça impactait derrière mes collègues. Et puis après, le patron, il n'était pas content, quoi. Et donc, j'ai pris mes vacances, je me suis reposée, ça allait mieux. Puis après, comme je vous dis, j'ai des hauts et des bas. Là, j'ai eu de nouveau un bas. J'ai dit à mon patron, je suis désolée, mais je ne suis pas bien. Je lui ai bien expliqué. Pour mon docteur, je fais partie de ceux qui ont le Covid long. J'arrive pas à me remettre de cette maladie. Je suis désolée si je fais des erreurs. Je voulais voir avec lui pour repasser à mi-temps. Puis non, un jour, j'ai dû vraiment m'arrêter parce que j'allais vraiment, vraiment pas bien. Et quand je suis revenue, en fait, mon patron avait tout programmé pour une rupture de contrat alors qu'il m'avait rien dit, rien parlé avant, rien, rien. Non, comme ça, on me l'a imposé, puis c'est tout. Tu signes et tu te tais. Voilà, ça s'est passé comme ça. Ça m'a vraiment mis plus bas que terre parce qu'une fois que j'ai eu ça, je suis quand même, déjà que j'étais pas super en forme, mais je suis tombée dans une grosse déprime où à un moment donné, je voulais plus sortir, j'avais plus envie de voir qui que ce soit. À part emmener mes enfants à l'école, voilà tout ce que je faisais, quoi.
Vous vous sentez essoufflée ou...
Un petit peu, là. Parler, au bout d'un moment, ça me
fatigue. Vous me dites si vous voulez faire une pause ou pas, vous me dites. Hein.
Oui, je veux bien, si c'est possible.
On fait une pause.
Ça va?
Oui.
Ouais, un peu fatiguée, mais un peu essoufflée, mais ça vient tout en même temps, c'est pénible.
On est parti. Aujourd'hui, vous voulez reprendre le travail? Est-ce que vous avez des pistes?
Alors, je postule. Je passe des entretiens. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé, mais... Mais j'espère trouver, même si je prends plus un mi-temps. Si j'ai un mi-temps, je suis contente. Mais bon, dans la vallée, avoir un mi-temps, c'est pas top, quoi. Parce que faut pas croire, hein, peut-être un joli cadre, hein, mais ici, la vie, elle est très, 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 très chère.
Et vous voyez le dire à vos futurs employés?
Non, je crois que je vais pas leur parler que j'ai été malade. Je pense pas que je vais leur en parler. Enfin, moi, j'en ai pas parlé à mes autres entretiens. Je pense que ça va faire peur aux gens. Ça va freiner, ça va être plutôt un handicap pour moi que... Donc non, je leur en parle pas. Le mot Covid, ça fait peur. Même mes enfants, hein. Ils ont peur pour leur maman, eux. Oh, pardon, excusez-moi, ça m'arrive encore beaucoup depuis mars. Excusez-moi. Ah ouais, la toux, j'en ai marre. Là aussi, ça part pas.
Bonjour monsieur. On est au bon endroit ?
Oui, vous êtes au bon endroit.
Okay. Merci.
D'accord. Vous voulez qu'on enlève les chaussures ? Non, c'est pas lui, c'est pas. Ça résiste, ça c'est bien.
On se trouve à Lucé, tout près de Chartres, dans l'Eure-et-Loire, où vit Pauline Oustric, la présidente de l'association Après J20, qui rassemble maintenant près de 800 malades et milite pour une meilleure prise en charge des patients.
D'abord, ils souhaitent savoir s'ils ne sont pas les seuls à être souffrants, avoir des médecins qui puissent les aider à comprendre ce qu'ils ont et surtout à se soigner, et surtout des aides juridiques et administratives pour avoir une ALD, une maladie professionnelle, ou tout simplement savoir comment on peut être arrêté quand on n'arrive plus à travailler parce qu'on a une incapacité intellectuelle ou physique. Donc c'est toutes ces questions très pratico-pratiques que nous posent les patients. Je vais regarder tout de suite pour vous trouver un exemple. Alors, on a 19 messages là qui sont arrivés aujourd'hui sur le compte. Voilà, par exemple, je suis allée sur votre site et j'ai recommandé à ma fille qui souffre du Covid long, elle n'a que 35 ans, était contaminée dans son lieu de travail à la pharmacie en octobre dernier. Elle, qui était sportive, travailleuse, maman de 3 enfants, pleine d'énergie, n'est pas reconnaissable. Voilà, c'est quelque chose de concret et ça, c'est important de dire, c'est que c'est beaucoup de mamans ou de grands-parents qui nous appellent pour leurs enfants, qui sont souvent, c'est plus des enfants de moins de 18 ans, parce que leur famille donc, n'arrive plus à se prendre en charge eux-mêmes, ils sont trop fatigués, ont trop de problèmes, et du coup, ils sont inquiets de les voir plus comme ils étaient avant. Donc ça, c'est beaucoup des messages. Je vais essayer d'en montrer un autre. Voilà, je suis perdue depuis plusieurs mois, j'ai beaucoup de symptômes qui durent, pouvez-vous me renseigner sur plusieurs points? Et là, après, ils vont détailler. Bonsoir, j'ai été hospitalisée une semaine avec plusieurs examens et plusieurs prises de sang, tout est normal. Mon médecin ne me parle que de simple fatigue. Jusqu'ici, on avait des examens qui étaient toujours négatifs. C'était une des caractéristiques du Covid long, c'est que les personnes se plaignaient et avaient des séquelles très importantes handicapantes, mais on voyait rien aux examens. Et maintenant, on commence à avoir des examens positifs parce qu'on commence à trouver quels examens correspondent aux plaintes des patients. Et c'est pour ça qu'il faut de la recherche. Donc tout est lié et il faut absolument que là, maintenant, les financements aillent dans la recherche pour qu'on améliore les soins.
Vous comparez souvent la France avec, par exemple, le Royaume-Uni ou les États-Unis. Oui. Il y a une vraie différence dans la recherche avec ces deux autres pays.
En Angleterre, oui, la recherche avance beaucoup. Ils ont eu beaucoup de financements. Ils ont eu 2 fois 20 millions de financements spécifiques sur le Covid long, donc la NIHR, qui est l'équivalent en France. C'est l'Institut National de Recherche. 2 fois 20 millions pour le Covid long. Et ça, c'est hyper important. Et en Amérique, il y a eu 2 milliards. Donc, c'est des chiffres qui sont colossaux et qui, en France, peinent à arriver. Et c'est une des revendications d'association, surtout cette deuxième année, enfin, entre guillemets 2021, c'est de trouver les causes du Covid long. Tant qu'on n'aura pas trouvé les causes, ce qu'on appelle physiopathologie, on ne pourra pas comprendre comment soigner les gens et trouver des traitements. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment l'action principale. Ensuite, ce qui pêche, c'est la communication. Il faut une communication globale, il faut expliquer ce qu'est le Covid long à tout le monde, à chaque fois qu'on parle du Covid, pour qu'on arrête de dire c'est un problème de jeunes par rapport aux plus âgés. C'est pas vrai, ça touche tout le monde. Si on informe tout le monde sur le Covid long, déjà il y aura moins de problèmes de contamination, plus de compréhension de l'invalidité des symptômes auprès des familles, des proches et des employeurs, et aussi des médecins. Donc la facilitation de la compréhension du Covid long, ça ira beaucoup mieux. Donc ça, c'est important, la communication. Et puis aussi, il y a tout ce qui est au niveau des soins. Pour l'instant, les soins, ils sont pas coordonnés. C'était ce que proposait la HAS, c'est-à-dire si les soins au niveau primaire, au niveau des soins généralistes ne suffisaient pas, il fallait que les patients puissent avoir accès à une structure pluridisciplinaire. Le problème, c'est que ces structures, d'abord, un, elles n'ont pas été créées. Celles qui existent, elles sont overbookées jusqu'à au moins juillet, voire plus. Et il n'y en a pas dans tous les territoires. Donc c'est un problème d'égalité entre les différents territoires. Et ça, c'est pas normal.
J'arrive. Désolée, je suis pas en retard.
Si ?
Non.
Les recherches sur le Covid long s'organisent un peu partout. Dans les hôpitaux, des programmes sont lancés à l'initiative de certains chefs de service. Mais tant qu'on n'a pas identifié les causes de la maladie, il est bien difficile de trouver un traitement ou un protocole de soins approprié. Alors, pour accompagner leurs malades démunis, les généralistes sont en première ligne. On retrouve Marie Roussel à Paris avec une architecte que les symptômes empêchent de travailler normalement. Elle fait équipe avec son médecin traitant depuis plusieurs mois.
Interception sur France Inter.
Tu fermes juste la porte.
Oui.
Donc cette grosse rechute-là, elle est passée à ma CHS un moment.
Combien de temps ?
Les gros vertiges, 3 jours. Ça a fait la semaine, le bazar.
D'accord. Ah, pas mal ça, une semaine.
Et après, si on prend depuis février, là où vous m'avez arrêté à plein temps et où je suis vraiment HS,
oui.
Je suis passée de 12 heures de nuit plus 3 heures de sieste et repos tout le temps. À en gros 8-10 heures de nuit, plus 2 petites siestes et du repos, mais quand même ça progresse quoi.
Avant le Covid, vous aviez besoin de combien d'heures ?
Je tenais avec 7 et j'étais mieux avec 8-9.
On se rapproche.
Donc on se rapproche, ouais, c'est ça. Par contre, j'ai pas du tout encore la même activité, ni intellectuelle, ni physique. J'ai été voir le neuro. Je ne sais plus quand, il n'y a pas longtemps, là.
La semaine dernière, la semaine d'avant. Où est-ce qu'il est ? Là, le 31 mars.
Oui.
Donc, il a fait un examen global, tout va bien. On est arrivé à la concentration et à la mémoire. Mmh. Et donc, il a prescrit un bilan neuropsy. La neuropsy, je l'ai eue au téléphone. Elle a très bien compris. Elle voulait savoir si ça m'angoissait ou pas. Moi, je lui ai dit que comme... Enfin, moi, j'ai confiance. Après, voilà, je pourrais... Voilà, depuis le début, ça prendra le temps que ça prendra. Ce qui m'angoisse le plus, c'est qu'on me remette en position difficile parce que là, je n'ai pas mes compétences complètes, donc je ne peux pas... Si on me remet direct dans mon poste de travail, je suis en... Enfin, je vais au casse-pipe, quoi.
Non,
tant que je ne suis pas dans cette position angoissante-là, ça va. Par contre, je n'ai pas peur de ne pas retrouver mes compétences, mais c'est long. Et du coup, je lui ai expliqué à la neuropsyche ce que... Alors, on va faire un bilan de 3 heures. Ben, vous voyez, là, j'hésite. J'ai besoin de fermer les yeux pour comprendre ce que je dis, etc. Donc, on va faire un bilan de 3 heures. Elle m'a dit qu'on vienne le chercher à la sortie parce que je serais beaucoup trop fatiguée pour conduire ou quoi que ce soit. Je m'étais testée avec, en échangeant avec d'autres qui avaient le même genre de problème. Il y a une appli Brain, je ne sais plus quoi, où on peut voir quels sont les domaines, en gros... sur lesquels on est déficient. Donc moi, clairement, les jeux sur lesquels j'ai même pas 25, c'est la concentration et la mémorisation. Sur les autres, ça marche très bien. Enfin, il y a des enchaînements d'opérations, toutes sortes de trucs qui sont assez lestes et rapides, enfin, que je fais à la vitesse à laquelle je les faisais avant.
Oui.
Par contre, mémoriser un machin ou une liste de mots, là, oh là là,
pfiou. Attention, hein. La dernière fois que vous êtes venue, vous auriez jamais pu faire une consultation aussi rapide et aussi...
Absolument, mais c'est ça, je m'en rends bien compte. Hier, je m'étais reposée toute la journée et j'ai pu passer 1 heure au téléphone avec l'interne de neuro parce que dans le cadre de leur programme de recherche, ils interviewent les patients. Au terme de l'heure, j'étais explosée de fatigue, ouais. Mais l'heure, je l'ai faite sans avoir trop de trous, quoi. Donc, on progresse, ça, c'est clair. Mais on est aujourd'hui et là, alors, je vais aller me coucher.
Mais après, je vais me coucher. Non, c'est bien.
Face à des patients comme Annabelle, au début, comment on se sent en tant que médecin généraliste? Comment on fait?
Comme d'habitude, on écoute, on accompagne, on trouve une solution ensemble. Enfin, c'est comme ça que je travaille, moi.
Il y a eu un moment, en septembre, j'ai eu une grosse crise respi. Oui. Et à ce moment-là, on s'est retrouvé avec le problème de j'avais pas de rendez-vous pour aller chez le pneumo, c'était pas possible d'en avoir un. Vous m'avez prescrit des médicaments, mais c'était au-delà de vos compétences. Donc je me suis retrouvée là, typiquement, dans un coin, quoi, du système de santé. C'est-à-dire que j'aurais eu besoin d'être prise en charge plus fort techniquement, etc. Et donc, ben, on a fait comme on a pu. C'était compliqué,
ça. Je voulais prescrire certains traitements que j'ai pas le droit, en fait, de prescrire en tant que généraliste. Que j'ai plus le droit en tant que généraliste. Ça, je ne sais pas pourquoi.
Ouais.
C'est vrai que ça m'a mis en
difficulté.
En difficulté. Oui, c'est vrai qu'on est en difficulté. On est tout à fait. Donc ça, oui, il y a de la frustration. C'est certain.
On vous la prendra après, ouais, avec les étiquettes. Hein. Merci.
On avait dit carte vitale aussi.
Avec les médecins, les kinésithérapeutes ont aussi un rôle essentiel dans la prise en charge du Covid long grâce au travail de réadaptation physique. Ici, au centre hospitalier d'Orléans, Louis-François Bernesser reçoit de nombreux patients concernés, comme Mathieu Lestage, malade depuis octobre dernier.
Covid. Oui, Covid. Covid. Lestage.
Cet ex-sergent instructeur dans l'armée, 42 ans, souffre de tremblements, de problèmes de coordination, de malaise. L'ancien sportif doit même se déplacer en fauteuil roulant maintenant.
Ça marche.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Je m'appelle Louis-François, je suis le kiné. Et c'est avec moi que vous allez faire votre examen aujourd'hui.
Bien.
N'ayant pu assister à la consultation, nous les rejoignons juste après.
C'était la première fois que vous voyez Mathieu ?
C'était la première fois qu'on se voyait. Il a été adressé par un de mes confrères qui voit actuellement donc, en libéral pour ses problèmes suite à son Covid. Et on a fait un petit test aujourd'hui de dépistage d'un syndrome d'hyperventilation qu'on suspectait suite à ses symptômes persistants du Covid.
Vous êtes amené à en voir beaucoup des patients qui ont le même type de symptômes dits Covid long.
Malheureusement, de plus en plus, on sait qu'aujourd'hui l'épidémie de Covid touche quand même pas mal de personnes. On découvre au fur et à mesure cette pathologie, et là on découvre de plus en plus cette phase de symptômes persistants ou de Covid long qu'on peut avoir chez nos patients. Et on découvre également avec des symptomatologies très différentes, très variées, qui peuvent nous faire penser au syndrome d'hyperventilation, d'où le dépistage que l'on a dans ce cas-là. On est vraiment en train de tâtonner, de trouver des différents tests qui nous permettent d'évaluer nos patients. C'est vraiment un travail de recherche au quotidien et un travail d'adaptation de nos techniques. Mais oui, on commence à pouvoir prendre en charge de façon plus appropriée ces différents patients. Là, actuellement, on a des créneaux de dépistage les mercredis et jeudis après-midi de syndrome d'hyperventilation. Ces créneaux sont pris d'assaut par les différents médecins pneumologues. Ce qui fait que là, à l'heure actuelle, les prochains créneaux de disponibles sont à peu près pour août.
Est-ce que vous voyez des évolutions au fur et à mesure de la prise en charge ?
Oui, des évolutions même très encourageantes sur les prises en charge. Nous, c'est des patients qu'on prend par exemple en réhabilitation respiratoire. Et on a des évolutions intéressantes sur le long terme. C'est ça le souci, c'est que la perte est rapide, mais la récupération est très lente, très progressive. Mais elle est présente, avec des évolutions où les patients reviennent quasiment à leur état antérieur en l'espace de quelques semaines, quelques mois. Des fois, c'est plus long pour certains patients. Globalement, on va faire un travail en endurance avec ces patients-là. C'est des patients qui sont extrêmement vite essoufflés au moindre effort. Donc on va travailler par exemple sur des cycloergomètres que vous avez là derrière. Ça peut être aussi le tapis de marche. Puis on va avoir aussi un reconditionnement musculaire périphérique en force, donc avec la musculation, hein, proprement dit, des muscles qui sont très vite déconditionnés puisqu'ils ne bougent plus, donc ils se désadaptent. Si le patient a des troubles d'équilibre, on va retravailler son équilibre. Si il va avoir des troubles avec des douleurs de dos, eh bien on va retravailler son dos, ses épaules, etc., etc.
Vous, Mathieu, par exemple, quel exercice vous faites ? Et après, on vous laisse. Je vois que vous êtes un peu fatigué.
Tapis de marche, vélo, exercice de musculation sur des appareils dédiés à ça. On les fait dans un sens ou dans l'autre. On travaille le haut ou le bas. On travaille aussi sur la respiration. Et ce qui est compliqué, en fait, c'est, par exemple, faire un exercice musculaire haut. Et puis, au milieu de la séance, sentir que le corps a du mal à repartir, on part sur le vélo et en fait, les jambes ne veulent plus, ne savent plus faire de vélo. Le cerveau envoie l'information. Mon cerveau, je dis à mes jambes de faire du vélo et mes jambes ne pédalent plus. Ou pas. Je sais pas comment le dire.
Même si les patients alternent entre des phases d'amélioration et de rechute, les médecins tiennent un discours optimiste. L'état de santé évolue positivement, mais ça prend du temps. Annabelle, qu'on retrouve dans le cabinet de sa généraliste à Paris, a fini par l'entendre au bout de quelques mois. Dans un carnet de bord, elle décrit et croque la maladie. Sur son corps dessiné, elle entoure les zones douloureuses. Chaque symptôme est consigné, mais aussi tous ses progrès.
En fait, moi j'en ai besoin pour pas devenir dingue, parce que en fait, la douleur, on l'oublie. Donc on oublie à quel point ça a été dur. Et quand ça rechute, on se dit « mais c'est pas possible, ça revient ». Non, ça revient, mais ça revient quand même moins dur que ça n'était. Donc quand on l'a écrit quelque part, on peut revenir en arrière et se dire « ouh là là, ah oui, non mais là j'avais tellement mal que j'avais envie de me taper la tête dans le mur en continu, quoi ». Là, heureusement, c'est plus à ce niveau-là de douleur. J'ai mal, mais c'est plus à ce point-là. Donc c'est vrai que le carnet, il sert à ça, et il sert à voir le rythme. J'étais complètement une semaine complètement HS et une semaine fatiguée de récup. Là, je commence à être un peu mieux. On voit que c'est plutôt toutes les 3 semaines ou tous les 20 jours. Donc 15-20 jours, ça s'éloigne un peu plus, quoi. Voilà.
Même dans le choix des couleurs, parce que vous vous rappelez, pour les articulations, Annabelle avait mis des couleurs très, très flash pour indiquer les points de douleur. Mmh. Et puis ça s'adoucit hein, petit à petit. Donc, et puis surtout, voilà, à chaque fois, je lui dis, bon, vous vous rappelez à tel moment dans quel état vous étiez. Ah oui, c'est vrai. Donc,
non, voilà, c'est vrai que c'était très flash. Tellement bizarre que moi, j'ai fait beaucoup de dessins pour expliquer aussi, parce que quand je dis qu'on oublie, c'est vrai. C'est-à-dire que si je n'avais pas fait ces dessins-là en marquant où j'avais mal et comment ça avait évolué, j'aurais complètement oublié. Et même maintenant, quand j'ai commencé à avoir mal en mai-juin, j'arrivais plus à tenir un verre d'eau, j'arrivais plus à ouvrir une porte avec une clé. Et il a fallu que je réapprenne à écrire avec un crayon à papier, puis un bic, Enfin, c'était dingue, quoi. Et mes mains, j'arrivais pas à tenir un sécateur. Donc, en octobre, j'arrivais toujours pas à tenir un sécateur. Je le sais parce que, voilà, je m'occupe de mes plantes, on va dire. Et à Noël, juste avant Noël, je me suis dit, bon, faut que je réessaye de tricoter. Déjà, ma tête faisait pas des choses compliquées. Donc, je me suis pris un patron tout simple. Et mes mains, je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Et franchement, quand j'ai recommencé au début, c'était tout gourd. J'étais pas du tout à l'aise. Et je me suis accrochée, et au bout de 2 châles, je me suis rééduquée les mains, quoi. Mais c'est hyper flippant, enfin, c'est hyper angoissant de perdre autant de capacités. Et c'est vrai qu'il faut écrire ces choses-là pour se rendre compte à quel point on a progressé, quoi.
Bon courage.
Merci, vous aussi.
Bonne journée à vous.
Au revoir.
Merci beaucoup de faire un
Covid long, une guérison en suspension. C'était un reportage de Marie Roussel. Prise de son Éric Audra, Georges Thau et Martin Troadec. Réalisation Juliette Medevielle, assistée de Martine Messonnier. Mixage Manon Houssin. La semaine prochaine, Interception cède sa place à l'émission des médias francophones publics Regards croisés. France Inter, RFI, Radio-Canada, la Radio-Télévision Suisse et la RTBF vous proposent une série de reportages consacrés à la mobilité douce et particulièrement à l'essor de la bicyclette.